La revue de la presse africaine avec vous, Sébastien Duhamel, à la une ce lundi, la fin d'une campagne compliquée en Algérie.
Oui, une campagne inédite, rappelle le site Tout sur l'Algérie. Il y revient ce matin car c'est ce dimanche 8 décembre à minuit que s'achevait la campagne électorale pour la présidentielle de jeudi. Entamée le 17 novembre dernier, elle s'est déroulée dans une conjoncture politique marquée par la poursuite du Irak, rappelle encore TSA. Elle a pris, cette campagne, les allures d'un véritable parcours du combattant pour les 5 candidats en lice. Confrontés à l'hostilité d'une bonne partie de la population, ces candidats, catalogués par la rue comme étant des figures résiduelles du système, ont eu toutes les peines du monde, estime le site internet, en plus d'être souvent hués par des manifestants qui venaient perturber leur meeting. Ils ont aussi péché par une pauvreté du discours sur l'utilité du scrutin et sur la nécessité de la participation. Car oui, développe TSA, face à leur auditoire maigre dans la plupart des cas, les candidats se sont essentiellement employés à convaincre les électeurs de se rendre massivement aux urnes. Mais les questions qui fâchent n'ont pas été abordées. Aucun candidat n'a ainsi évoqué la manière de traiter avec le Irak. Non, il se contentait seulement de louer son pacifisme. Pourtant, conclut le site, les multiples arrestations, les libertés malmenées, la diplomatie ou bien encore le bilan de Bouteflika ont en revanche été omis.
El Ouattane, pour sa part, revient sur les débuts laborieux du scrutin à l'étranger.
Sous haute tension et sécurité renforcée, le vote a débuté timidement ce week-end pour la communauté nationale établie à l'étranger, note le journal. Et pour cause, reprend-il, l'opération de vote, censée se poursuivre jusqu'au 12 décembre, a été marquée par de nombreuses actions de protestation des anti-élections. El Ouattane tient la liste, initiée par des collectifs citoyens pro-Irak. Plusieurs manifestations et rassemblements ont été organisés au niveau des centres de vote en France, mais aussi en Belgique, Suisse, Espagne, Grande-Bretagne, États-Unis ou bien encore au Canada. Comme on peut le lire en effet sur le site de Radio-Canada, des centaines de membres de la communauté algérienne ont manifesté ce dimanche à Montréal. Et là-bas aussi, explique l'article, les manifestants croient que l'élection est une véritable mascarade.
Autre dossier qui fait la une ce matin, Sébastien. À Paris, Libération s'interroge sur la restitution des biens mal acquis confisqués par la justice française.
Comment ne pas rendre au voleur le butin de son hold-up ? Deux députés viennent de remettre les pieds dans le plat dans un rapport parlementaire, nous explique Libération. Sollicités par les services du Premier ministre, ces députés pointent une fois de plus qu'aucun mécanisme ne garantit la restitution des avoirs confisqués aux populations locales, à savoir aux véritables victimes des faits de corruption ou de détournement de fonds. Non, en l'état actuel du droit français, poursuit le rapport des députés, les biens saisis abondent le budget de l'État français de manière injustifiée, car la France n'est pas victime des infractions commises. Donc, que faire ? Remettre ses avoirs aux gouvernants en place, comme l'a fait la Suisse pendant une trentaine d'années par exemple ? La Libération ironise, cela revient à pisser dans un violon. Alors, à l'image d'un sénateur socialiste au printemps déjà, les deux députés préconisent aujourd'hui de confier la restitution des biens mal acquis à des organisations tierces, comme l'Agence française de développement, AFD ou des ONG, à charge pour elles alors de redistribuer les fonds. Un point parfois plus difficile à dire qu'à faire, ironise Libé. En 2009, faute de destinataire, 2 millions d'euros qui appartenaient au général Mobutu ont été finalement restitués à ses héritiers de sang.
Et la question d'ailleurs, Sébastien, reste d'actualité.
Non seulement s'ouvre aujourd'hui à Paris le procès pour blanchiment de Rifaat al-Assad, l'oncle du président syrien, mais doit également s'ouvrir, note Libération, le procès en appel de Théodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, actuel vice-président en charge du ministère de la Défense. Un cas d'école pour le quotidien qui rappelle, en première instance, la justice française l'a condamné à 3 ans de prison avec sursis, mais elle a surtout ordonné la confiscation de ses biens sur le sol français, des biens évalués à 150 millions d'euros. Alors, semblant préjuger le résultat de l'appel, que faire du pactole, demande encore Libération, d'autant qu'à la barre du tribunal français, l'État équato-guinéen avait fait mine de se constituer partie civile tout en contestant la moindre infraction commise par son vice-président. Et cela souligne le journal, sans réclamer la moindre restitution de fonds.
Sébastien Duhamel, la revue de la presse africaine, à retrouver à tout instant sur RFI.fr et sur nos réseaux sociaux.